um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
D'entendre le canto das tres races, le chant des trois races. C'était Clara Nunes, ça nous vient tout droit du Brésil. Une chanson qui, nous raconte que, bien sûr, il y a trois races et même plus qui se retrouvent au Brésil et qu'elles arrivent à cohabiter. Mais le problème, c'est le travailleur qui se trouve toujours dans une situation précaire. Et il est dit à un moment que, plus que l'agonie, le plus terrible, c'est le chant du travailleur sur la terre du Brésil. Chanson gay donc aujourd'hui pour fêter les métissages sur les petits tas dans le Mou, 64e édition, car selon le calendrier du Père Ubu, nous sommes la Sainte Bazane, sainte patronne des métissages. Pourquoi le père Alfred Jarry a-t-il choisi la Sainte Bazane aujourd'hui? Certainement parce que selon le calendrier catholique et romain, nous sommes la Sainte Aubin, donc Aubin qui veut dire blanc, saint patron des blanchisseurs. Et lui, il a choisi le basané, la basane. Savez-vous ce que c'est que la basane? C'est ce qui, dans les vieux livres, on en voit encore, c'est ce qui faisait la reliure des vieux livres. En fait, c'est une peau de mouton tannée mêlée de divers végétaux. C'était très fragile, ça faisait des mauvaises reliures qui ne résistent pas avec le temps, la basane. Et on a trouvé ensuite ce qu'on appelait la peau de chagrin. Souvenez-vous le roman de Balzac, la peau de chagrin, qui était un petit peu plus solide et qui était faite en fesses d'âne, parce que sagri en turc, ça veut dire âne. Et aujourd'hui, nous allons donc fêter les basanes et tous les métissages pendant une heure en votre compagnie. Les petits tas dans le mou. Rubrique Alpha, trou dans le dur.
Psst, réveille-toi. Réveille-toi. Basane. Mais réveille-toi. Le clocher a sonné 11 heures. Et le jour ne s'est toujours pas levé. Réveille-toi, mais réveille-toi, Basane. Mais c'est que toi. Le clocher a sonné 11 heures et le jour n'est toujours pas levé. Je dois me fier au clocher ou à la lueur du jour. Le jour n'est pas levé, mais je crois que le système solaire est plus fiable que les misérables aiguilles catholiques de l'église de ce village. Laisse-moi dormir. Réveille-toi.
Oh non. Il a replongé dans le sommeil.
Mais réveille-toi, Basane. Et si le jour ne se lève pas, on va donc dormir à jamais.
Fais pas chier, fais nuit. Laisse-moi dormir.
Basane. Je te jure, je me suis filé un coup de pioche sur le front. Et c'est pas exprès, c'est en marchant sur le métal. Je ne dors pas. Et touche cette bosse, elle confirme que je ne rêve pas, que le soleil est en rade de l'autre côté de la planète. Basane,
il a sonné 11 heures au clocher de l'église. Et le soleil ne s'est pas levé.
C'est que t'as pas tapé assez fort sur ton crâne. Vite. Et là, tu aurais dû t'assommer. Comme ça, tu dormirais.
Mais je ne plaisante pas, Basane. Il est 11 heures passées et on y voit goutte.
Mais c'est l'éclipse.
L'éclipse?
Bon, mais l'éclipse.
Mais une éclipse ne dure pas toute une matinée, Bazan. Et dire que tous les gens sont tombés dans le panneau, je n'entends aucune agitation dans le village.
Ouais. Moi, j'entends la tienne d'agitation. Me laisse les gens où ils sont, Aubin. Ils nous chasseront moins tôt de cette grange.
Mais moi, je tremble, car tout va s'arrêter. Si les gens ne travaillent plus, qu'est-ce qu'il nous restera à voler ?
Dors. Fous-moi la paix. Qui dort dîne. Compte les moutons s'il en suivent. Laisse-moi dormir.
Mais il n'y a plus de moutons, Bazan. Tous les moutons sont couchés. Tous les moutons seront rachitiques s'ils ne s'en vont pas paître à midi. Il est 11h, il fait nuit.
Vas-tu te taire ? Me laisser dormir. Je dors car il fait nuit. Nous verrons tout cela à la lumière du jour.
Et Bazan attrapa Aubin par le cou et s'efforça de lui écraser le nez dans la paille sous la grange. C'étaient deux vagabonds.
Mais je ne veux pas dormir, disait Aubin. Je ne veux pas m'enfoncer dans le sommeil.
C'est alors que la porte de la grange roula et qu'une silhouette épaisse emmanchée d'un fusil de chasse se découpa sur la nuit noire.
Ah, il y a quelqu'un qui est levé, dit Aubin. Il y a quelqu'un qui est levé.
Non seulement vous squattez ma grange, mais vous semez le trouble dans toute la commune à 11h du soir en gueulant comme des putois.
Hurla le métayer.
Si vous n'avez pas d'étalé à trois, je fais de vous de la chair à saucisse, espèce de clandestin. Un. Deux.
Et ils coururent. Aubin et Bazan. Et quand ils furent bien loin de l'église du village, Aubin présenta de lui-même son oreille à Bazan pour qu'il lui fasse subir le mouvement giratoire dont il avait le secret.
Oui, mais on s'est couché trop tôt.
Il est 11h du soir. Cela n'excusait rien. Ils durent fuir ce village pour échapper au plomb du métayer. Rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous donnant sur le ciel absolument dégagé de Lyon aujourd'hui. Et donc vous avez de fortes chances de voir s'approcher la navette spéciale de Mister Astral et de Miss Cosmos.
Ouais.
Aujourd'hui, ce s'est vraiment en douceur. Hein. La stratosphère était très dégagée sur votre petit fragment de lion. Bravo, Mister Astral, pour cet atterrissage en douceur dans les studios de Radio Canet. Comme chaque semaine hebdomadaire. Celle-ci de semaine hebdomadaire, on s'est posé une question avec Mister Astral, c'est à qui vos états font-ils des cadeaux ? Pendant que votre biosphère reste un hochet pour les sophistes en chambre et en cabinet. On voudrait s'arrêter aujourd'hui avec Mister Astral sur deux exemples qu'on a constatés depuis notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope. Un exemple sur le fragment France et l'autre sur le fragment Yankee. En France, et pas plus tard que votre hier, l'Assemblée nationale devait se pencher sur la simplification du droit et l'allègement des démarches administratives concernant les transporteurs routiers. Donc, simplification du droit et allègement des démarches administratives. Ça s'appelait officiellement hier. Et vous savez ce qui s'est passé ? On leur a accordé d'augmenter de 4 tonnes les charges de leur camion actuel. Sans leur ajouter un sixième essieu. Parce que les essieux, bon, actuellement c'est des 40 tonnes, eh bien c'est essentiel pour préserver les chaussées. Plus vous en avez, moins le poids se trouve au même endroit sur vos gros mastodontes là. Eh bien, avec un cinquième, avec seulement 5 essieux, on peut rester à 44 tonnes actuellement sur votre fragment en France. Mais vous êtes en train de crier dans le poste, qu'est-ce que ça peut nous fiche, hein? Mais voilà, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, c'est que vous n'êtes pas bon en calcul, moi je dis. Et jusqu'à présent, vos gros trucs à roues ne pouvaient dépasser 40 tonnes, donc. Déjà, l'entretien public des routes n'était pas une mince affaire, avec ces mastodontes en perpétuelle transhumance. Par chez vous. On les voit bien de la stratosphère avec Mister Astral.
Ouais.
sachant que vos élus ont renoncé à toute taxe sur les poids lourds, hein, qui se reporterait sur le prix des produits, vous m'entendez, par le processus de la valeur ajoutée. Vous comprenez bien ça sur votre météorite. Eh bien, on multiplie les creux et les bosses sur vos chaussées. Et on estime le surcoût des 4 tonnes autorisées pour les camions à 500 millions d'euros d'argent public par an pour l'entretien des chaussées. C'est logique, hein? On les voit bien de là-haut, les creux et les bosses. N'est-ce pas, Mr. Astral? Ça commence à ressembler à la Lune, votre météorite. Mais ce n'est pas tout. Ce cadeau va créer ce que vous appelez un appel d'air, ou plutôt un appel de gaz carbonique. Et ceux qui ont les moyens, parmi les transporteurs, vont obésifier leurs engins pour qu'ils s'acclimatent au plafond des 44 tonnes. Concurrence, quand tu les tiens. Concurrence. Pendant ce temps, le fret fluvial, maritime et ferroviaire a été divisé par 2 en 10 ans sur votre fragment France. C'est singulier.
Des camions plus longs limiteront le nombre de véhicules en circulation.
Qu'ils disent !
Des camions plus longs limiteront le nombre de véhicules en circulation et donc moins de dégagement de gaz carbonique.
On ne doit pas avoir la même table de multiplication que ces gens-là, ni la même vision du taux de croissance. Pendant ce temps, sur l'échantillon Maine du fragment Yankee, les derniers agriculteurs s'inquiètent. Lorsqu'une nouvelle ferme se rallie aux germes transgéniques de Monsanto, et y en a l'air, hein, ceux-ci, grâce au vent et au pollen, vont se promener tout alentour et font la java avec les autres cultures, malgré leurs origines différentes. Et vous allez dire, chères auditrices et chers auditeurs, qu'est-ce que ça peut nous fiche? Mais c'est que vous n'êtes pas bon en calcul. Oui, c'est le métissage des cultures. Qui désespère le brave paysan traditionnel. Ça copule dans tous les sens dans les plantations. Et le pire, c'est que le cultivateur d'origine est dans son tort. Monsanto a déjà mené 144 actions en justice contre des fermes suspectées de violation de brevets d'exploitation. Ça s'appelle. Tout ça parce que les plantes copulent naturellement, même celles qui sont transgéniques. Que faire contre cet autre mastodonte multinational qui s'appelle Monsanto? Les associations d'agriculteurs dans le pays Yankee sont systématiquement déboutées en justice. La justice fédérale, hein, au service des citoyens. C'est singulier, n'est-ce pas, Mr. Astral?
Ouais.
La peur d'un danger futur n'est pas une cause suffisante pour intenter un procès, a expliqué une juge de Manhattan. La peur d'un danger futur n'est pas une cause suffisante pour intenter un procès. C'est logique. Alors, les agriculteurs demandent à Monsanto un engagement écrit comme quoi la firme ne les attaquerait pas. Et alors là, maintenant, ils sont coupables de concussion à cause d'un pur et simple fantasme de paysans rétrogrades contaminés par la propagande Internet. Mais, texto, hein? Bah oui. Alors, on se demande avec Mister Astral, pourquoi Monsanto cherche-t-elle des coupables parmi les paysans? Des violeurs de brevets. La terreur règne chez les fermiers et la justice yankee la soutient. Collusion, affaire de gros sous, ou bien, sur ce fragment encore, malfaçon dans les tables de multiplication et les règles du profit. On se le demande encore avec Mister Astral. Et c'est pas notre télescope qui apportera la réponse. D'ailleurs, je suis en train de constater que Mister Astral, il est en train de refaire ses calculs pour le décollage de la navette spéciale. Oui, pourvu qu'il ne se prenne pas dans les virgules. Hein. Ça va aller, Mister Astral? 5 sur 5?
7.
Ça va aller, Mister Astral, j'ai eu les calculs de décollage. Oh, on va pas rester sur ce météorite. Hein. Sinon, on va finir dans un gros 5. Camion. On va finir contaminé par du transgéné, machin truc. Ça va, on va pouvoir décoller quand même pour rejoindre notre constellation des Pénins, Mister Astral. Oui, les calculs étaient justes. Oh, sacré Mister Astral. On tâchera de revenir la prochaine semaine de manière. Si on se trompe pas dans nos calculs.
Peut-être les avez-vous aperçus, s'éloigner, traverser la stratosphère pour rejoindre leur constellation des Pénates au moyen de leur navette spéciale. Eh bien, sur ces bonnes nouvelles que nous annonce Miss Cosmos, nous avons eu l'idée de vous faire une pause musicale extrêmement gaie aujourd'hui. C'est la première partie du Requiem de Mozart, le Kyrie des sciences naturelles. Requiem de Mozart, le tout début, le Kyrie, donc sous la direction de Michel Corboz. Tout ça toujours pour fêter les métissages avec les petits tas dans le mou pour jusqu'à 14h. Rubrique Gamma. Comme chaque semaine hebdomadaire, Joël a fait un rêve et nous le compte. J'ai rêvé que je me trouvais rue du Vieux Capitaine. Dans une file d'attente. En me renseignant vis-à-vis des gens qui étaient devant et derrière moi, je compris que rue de Vieux Capitaine, c'était la file d'attente pour le traitement des dossiers à Pôle emploi. Rue du Vieux Capitaine. Et la file dans mon rêve était si longue qu'elle débordait sur la rue, au-delà des travaux de renouvellement de la toiture du bâtiment qu'il y avait là. Quel rêve lassant, dans une file d'attente à Pôle emploi, rue du Vieux Capitaine. Et il y avait des gens qui se rajoutaient dans la file, en goutte à goutte régulier, jusqu'à ce que tous les gens, toute cette queue, se trouvent confrontés comme un seul homme au vieux dilemme qui partage l'humanité depuis qu'elle a inventé l'échelle, pensais-je dans mon rêve. La file devait-elle, puisqu'il y avait des travaux, dans un souci de réduction du parcours, se poursuivre sous l'échelle ou la contourner en empiétant sur la route. Tel était le problème qui se posait à tous dans mon rêve, à moi, Joël. Ça n'était pas rigolo. Ça peut sembler puéril, mais un certain nombre de gens ne passent pas sous les échelles et les contours. Et ça ne changeait rien au temps d'attente pour les allocataires, me direz-vous. Et pourtant, moi, j'étais dans la file qui contournait l'échelle. Et la file, dans mon rêve, dans sa croissance naturelle, opta donc pour le contournement de l'échelle des travaux de toiture, sans concertation particulière entre ses anneaux. Elle faisait donc un petit arc de cercle autour de l'échelle. Et il se formait un élégant arc de cercle dans mon rêve à partir du trottoir et qui le rattrapait un petit peu plus loin, ménageant 1,50 m à peu près de chaque côté des pieds de l'échelle, ce qui semblait convenir aux couvreurs qui travaillaient et qui montaient, descendaient alternativement de cette échelle pendant que notre fil se rallongeait. Mais, comme cela se passe dans toute file d'attente, quelle que soit l'attente, certaines personnes, à l'extrémité de la queue pour Pôle emploi, commencèrent à exprimer leur impatience, en termes plus ou moins retenus.
Fais chier, toujours pareil, ils ont fermé, ils manquent des guichets.
Et l'agitation des derniers de la file ne manque jamais de se communiquer à ceux qui les devancent, et imperceptiblement, une bonne partie de la queue se mit à s'agiter en piétinant, tout en continuant à contourner cette fameuse échelle des travaux de toiture. Dans mon rêve. Mais... ça ne s'arrêta pas là. Eh oui, un audacieux prit la tangente au fameux fer à cheval et, pour grappiller quelques places, coupa par le travers en dessous de l'échelle, créant une ligne droite sur le trottoir alors que tous avions respecté la courbe dans mon rêve. Quelques regards assassins dans la file avisèrent cette espèce de garnement à travers les barreaux de l'échelle. « Hé, dites voir !» l'interpella une dame dans mon rêve. « Vous venez de nous doubler tous, là? Toute une partie de la file? Reprenez votre place dans la file !» Respect. Mais dans mon rêve, celui qui avait pris la ligne droite sur le trottoir en ignorant l'échelle répliqua « Mais quel fil ? Moi je prends le chemin le plus court, vous croyez peut-être que je vais prendre racine là ?» Avait-il tort ou avait-il raison ? J'aime pas les superstitions qu'il a rajoutées dans mon rêve. Et à un moment, moi j'ai craint pour lui, car les gens qui attendaient là depuis un bon bout de temps dans la courbe, chacun docilement à sa place, commençait à perdre patience et attendait un bouc émissaire, celui qui peut-être filerait tout droit, en les doublant dans la file, en créant la file de ceux qui ne sont pas superstitieux et qui passent sous l'échelle, en ligne droite. Ah, vous voyez pas de fil ? Hé, on était prioritaire, on est la première file, celle qui contournait l'échelle. Vous voyez pas de fil ? Mais qu'est-ce que vous faites là-dessous à nous gruger des places, là ? On marche sur le trottoir, un piéton marche sur le trottoir. Je ne vois pas pourquoi vous contournez ce trottoir. Je marche tout droit. Et des gens, d'ailleurs, commencent à s'installer derrière moi. Du coup, il y a deux files, celle qui fait la courbe et celle qui passe direct tout droit sous l'échelle, dans mon rêve. Comment contester à la file des gens qui marchent tout droit en passant sous l'échelle le droit de faire une double file et de gruger ce faisant les gens qui contournent l'échelle par superstition? Il y a deux voies, et c'est tout. Il y avait deux voies maintenant dans mon rêve, il y avait deux files d'attente à Pôle emploi, rue du Vieux Capitaine. Et le gars qui avait ouvert la file qui passait sous l'échelle disait il fallait bien quelqu'un pour ouvrir cette voie la plus logique. Vous, vous contournez l'échelle, vous êtes bizarre, hein. Et c'est fait, ne me remerciez pas. Je vous ai enlevé en plus une superstition de votre tête en vous disant qu'on peut très bien passer sous l'échelle. Quel risque y a-t-il ? Contournez cette échelle ! Contournez cette échelle. La première file, contournez l'échelle. Il n'y a pas de raison que nous vous grappillez des places en passant sous l'échelle. Tout ça pour aller tout droit et pour gruger des places et pour passer plus vite à Pôle emploi pour avoir enfin un agent qui réponde à vos problèmes de dossier personnel. Ça se corsait dans mon rêve. Ah oui, 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 je gruge moi. Et monsieur, madame, je gruge. Et l'obstiné n'obtempérait pas, et il continuait sa file qu'il avait créée, et d'ailleurs, des gens s'aggloméraient derrière lui, sur le trottoir, en ligne droite, sous l'échelle. Et que même lui, il se mit à siffloter les mains dans les poches. Tout ça pour un dossier à Pôle emploi. Mais dans mon rêve, je n'avais pas oublié le couvreur qui travaillait sur la toiture et qui utilisait cet échafaudage avec l'échelle. Et le couvreur, dans mon rêve, il était devenu si familier des pauvres gens qu'il surplombait et qui gaspillaient leur temps pour se prouver chômeurs. Le couvreur, je le vis descendre un à un les échelons. Sans se précipiter, tout tranquillement. Et, une fois à terre, il déplaça l'échelle de quelques mètres en retrait, hors de portée de la file d'attente de Pôle emploi rue du Vieux Capitaine. Et savez-vous ce qui se passa dans mon rêve ? Le demi-cercle se rétablit en ligne droite sur le trottoir et tous ceux qui étaient dans l'ancienne ligne droite furent propulsés comme une boule de la loterie nationale à sa place initiale dans la queue. Quand je me suis réveillé, je me suis dit « Heureusement qu'il y a toujours ces tierces personnes travailleuses et qui, surplombant les choses, malgré leur travail, observent les abus des uns et des autres pour les aider à eux-mêmes se remettre en place dans la file. » N'empêche qu'à Pôle emploi, il pourrait ouvrir de nouveaux guichets au lieu de faire des économies comme une boîte privée. Et voici venir notre ultime rubrique, la rubrique Baba Yaga, celle que tous les défunts et les forcenés appellent. Heureusement que t'es là. Mon ami, tu es mort. Mon ami, tu es mort, tu étais pour moi l'humour noir. L'humour noir. Métissage de ma sévérité. Quand tu étais près de moi, même sous la férule des rois, des empereurs et des tout-puissants, tu transformais l'arme censée me frapper en une baguette magique. Mon ami, tu es mort. Quand tu étais près de moi, tous les gens qui étaient susceptibles de me frapper prenait la physionomie des coups qu'elle donnait. Mon ami, tu es mort. Tu me faisais savoir que le pouvoir a beau être insurmontable, il n'a jamais trouvé la recette pour cristalliser l'humour. Mon ami, tu es mort. C'est avec plaisir que le fou se plie au bon vouloir du maître. C'est ce que tu me faisais croire, mon ami qui est mort. Mon ami, mon fanfaron, mon larron, mon copain. Tu disais toujours que le maître se rassure en protégeant ses plus grands critiques, en le gardant à portée de main et en lui assurant sa subsistance. Le fou ! Tu étais le fou qui, sans se presser, détraquait la pendule officielle. Mon ami, tu es mort. Tu donnais aux unités de mesure des accès de fièvre que les médecins attribuaient au surmenage du maître. Et le maître, pour se rassurer, te rappelait, toi, le fou, à ses côtés. Et ce faisant, il aggravait ses symptômes en se conformant à l'ordonnance de la bonne santé. Mon ami, tu es mort. Le fou du roi est mort. Et tu disais, maître, vous n'êtes pas du tout malade, maître, vous n'êtes pas du tout malade. Il faut simplement remonter la pendule. Faisait des rapprochements imbéciles et le roi rigolait. Il retournait en enfance tandis qu'à l'extérieur, on exécutait ses ordres quinquennaux. Mon ami, tu es mort. Et maintenant, je vois à l'épicerie de l'angle des femmes qui se tordent les bras devant le bidon de victuailles, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Tu leur faisais croire aussi qu'il était à moitié vide, plus qu'à moitié plein. Et je vois maintenant à l'épicerie de l'angle ces femmes qui se tordent les bras auxquels elles ont droit pour nourrir la famille un bidon de victuailles à moitié plein. Et le maître ne rit plus avec son brave fou. Mon ami, tu es mort, le fou qui travaillait à la racine tous les maîtres du jour, jour après jour, comme on bouture les fondations de l'arbre pour en faire un bonsaï. Avec toi, le roi n'était qu'un bonsaï. Tordu sur ses racines. Mon ami, tu es mort. Moi, j'étais un mauvais fou. Car les amis de mon maître criaient toujours « Cet homme se joue de vous. Ne voyez-vous pas qu'il vous distille jour après jour le poison libéral d'une musique de sentiment ?» Ne vous sentez-vous pas qu'à son écoute, votre fermeté fléchit comme la pomme de terre s'amollit à la cuisson? Dans l'eau. Mon ami, tu es mort. Tu me manques beaucoup. Il me manque le fou. Il me reste le roi. Et moi, je ménage la chèvre et le chou. Camarade Maccabée, il faut que je change de bobine. Je ne sais pas tricher. Je ménage la chèvre et le fou. Il me manque le chou. Mon ami, tu es mort. Toi qui les faisais rire et nous aidait encore. Créon, disais-tu, Créon, et tu pensais au roi. À l'épicerie de l'angle, des femmes se tordent les bras devant le bidon de victuailles, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et ça ne me fait pas rire. je me dis que si toi tu te trouvais parmi elles, tu aurais su, par le rire, les inciter au combat. Moi, je ne sais pas. Mon ami, tu es mort. Moi, je ne sais pas. Je ménage la chèvre et le chou. La chèvre et le chou.
Dire que Fernand est mort, dire qu'il est mort, Fernand, dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant, lui dans sa dernière bière, moi dans mon brouillard. Lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Devant, y a qu'un cheval blanc. Derrière, y a que moi qui pleure. Dire qu'il n'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Dire que maintenant il pleut, dire que Fernand est mort. Qu'on traverse Paris dans le tout petit matin. Dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi, tu sais pas, tu dors, mais c'est triste à mourir. D'être obligé de partir quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enfant. Et puis, si j'étais le bon Dieu, je crois que je serai pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Tu sais, je reviendrai, je reviendrai. Ce putain de champ où tu dois te reposer. L'été, je te ferai de l'ombre. On boira du silence à la santé Constance qui se fout bien de ton ombre. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon dormir dans ton cimetière. Et maintenant, bon Dieu, maintenant, je vais pleurer.
Jacques Brel, Fernand, pour finir cette émission des petits tas dans le mou. Et nous nous retrouvons, si tout se passe bien, que nous subissons pas le même sort que ce Fernand, la semaine prochaine, hebdomadaire, toujours le jeudi de 13h à 14h, les petits tas dans le mou, donc. Mais nous fêterons, rassurez-vous, ce sera la grande gloire et la grande gaieté, la Sainte Jeanne d'Arc, sainte patronne des vierges vindicatives. Tout un programme à soi seul. Donc, on va vous laisser maintenant.